SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Europa Voice numéro 160. Et comme à l'accoutumée, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
160. Et on parle encore une fois aujourd'hui avec deux sujets importants dans cette Europa Voice. Première partie sur le... Alors, entre guillemets, énorme guillemets, proposition de cesser le feu en Russie, en Ukraine, le coup de téléphone entre Poutine et Trump sera le premier sujet de cette Europa Voice. Et en deuxième partie, nous parlerons de la Serbie. Il se passe des choses très intéressantes en Serbie, donc en deuxième partie de cette Europa Voice. Donc tout d'abord, eh bien faisons un point sur la situation, autant qu'on puisse le faire d'ailleurs, puisque c'est vraiment quelque chose qui est en mouvement. Nathanaël, il y a eu un énorme coup de téléphone, énorme dans le sens en durée, une heure et demie de conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine, entre le leader américain et le leader russe. Et dans l'enfilade de cela, il y a eu aussi une communication entre Poutine et Zelensky. C'est assez important, il faut le noter. Où en est-on? Puisqu'il y a eu des discussions de cessez-le-feu, mais aujourd'hui, il n'y a pas de cessez-le-feu ferme en Ukraine sur le conflit avec la Russie.
Il y a un cessez-le-feu, Christophe, mais c'est un cessez-le-feu qui est limité aux seules infrastructures énergétiques.
C'est, oui, il a été accepté, ce cessez-le-feu? Il est proposé?
Alors, il est proposé. C'est un cessez-le-feu qui a été convenu par Trump et Poutine sur une pause immédiate dans les attaques russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Mm-hmm. Ça, c'est ce qui a été proposé. Et ce qui a été discuté pendant effectivement un très long coup de fil téléphonique, on a, je pense, rarement l'occasion de faire des coups de fil téléphoniques de près de deux heures. Mais c'est effectivement un petit échec, en fait, dans l'art du deal, pour le coup, de Donald Trump. Est-ce que c'est d'ailleurs pas son premier échec depuis son investiture? On attendait beaucoup plus, en fait, de ce coup de fil entre Trump et Poutine.
Je vous rappelle qu'il pensait faire la paix en 48 heures. Hein. 24 heures même, je crois, mais on va dire 48 heures pour être large.
Il pensait faire la paix. Et puis surtout, c'est aussi un mauvais signe qui est envoyé. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand même que, en coulisses, c'est Poutine qui mène la danse. Alors, j'irai pas jusqu'à parler de trahison vis-à-vis de Trump. Mais en tout cas, on a l'impression qu'on s'aligne plutôt sur les positions de Poutine. Et qu'à chaque fois, d'ailleurs, que ce soit là ou que ça a été dans les précédentes rencontre Poutine, Trump, Zelensky. À chaque fois, on a l'impression que c'est Zelensky, surtout, qui doit courir après et faire le service après-vente des discussions qu'il y a eu entre Poutine et Trump.
Alors, sur cette demande, donc, ou cette proposition de cessez-le-feu, plutôt, vous dites bien sur les frappes contre les ressources énergétiques en Ukraine. La contrepartie de cela, ce que Poutine et ce que les Russes demandent, elle est quand même énorme. On demande, en gros, aux États-Unis, mais aussi à l'Europe, donc à l'Occident, d'arrêter d'armer l'Ukraine, de stopper le réarmement de l'Ukraine. Alors, Donald Trump avait déjà stipulé qu'il n'allait plus aider l'Ukraine en termes d'armement. C'était en tout cas la pause ou le moratoire qu'ils avaient mis là-dessus. C'est quand même un sacré coup de canif dans le contrat européen avec l'Ukraine, parce que les seuls qui devront, à partir de ce moment-là, retirer leur aide à l'Ukraine, qui est l'aide militaire, c'est les Français, les Allemands, les Néerlandais, les Britanniques, les Européens. Et ça, c'est vraiment un coup de maître, échec et mat, un peu, pour Vladimir Poutine.
Bah, c'est surtout une manière, en fait, d'éloigner un peu les Européens, quand bien même il y aurait quand bien même il y aurait une continuité dans l'aide militaire octroyée à l'Ukraine, ce serait une aide américaine. Et d'ailleurs, dans le coup de fil qu'il y a eu après entre Trump et Zelensky, le président ukrainien, lui, dans la presse, quelques heures après, a parlé des avions F-16 supplémentaires, avions F-16 de conception américaine. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'à la fois, pour l'instant, on ne répond pas entièrement positivement aux demandes de Poutine d'arrêter toute l'aide américaine. Mais par contre, on semble s'entendre sur le fait que si aide militaire il y a à l'Ukraine, si soutien militaire, entre autres, il y a à l'Ukraine, c'est un soutien américain. Mmh. Et donc que finalement, de discussions multilatérales incluant l'Europe, on en arrive à une espèce de triumvirate entre Poutine, Zelensky et Trump, en excluant totalement les Européens de la partie. Et d'ailleurs, la prochaine étape, c'est cette réunion en Arabie saoudite. Et on a encore une fois l'impression que les Européens sont mis complètement de côté.
Oui, tout à fait. Et si les Européens, parce qu'ils ont le droit aussi de refuser et de continuer à armer et à réarmer l'Ukraine, ça envoie aussi le message que c'est eux qui ne veulent pas la paix. C'est une arme supplémentaire dans la propagande de Poutine.
Ben effectivement, on a l'impression, encore une fois, que pour l'instant, en coulisses, c'est Vladimir Poutine qui propose et c'est Zelensky, je caricature un peu, qui refuse ou qui freine en tout cas l'arrivée à une situation, je ne sais pas si on peut parler de paix, mais en tout cas de cesser le feu. C'est l'impression que ça donne. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que on a, pour Poutine et Trump, il est clair que les Européens sont off game, comme on dirait en anglais. Par contre, pour Zelensky, il n'a pas envie de se faire entraîner dans cette espèce
de binôme
russo-américain. Et donc, le président ukrainien continue encore à solliciter, continue à discuter avec ses alliés européens. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, Zelensky a annoncé qu'il se rendra en France pour rencontrer le président Macron, duquel il dit qu'il est en contact avec lui de manière régulière. Donc c'est intéressant de voir aussi comment finalement c'est par les Ukrainiens que l'Europe a encore un petit peu la tête émergée dans ces négociations, ces tractations pour arriver à un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie.
Si on est direct, on peut dire que les Russes veulent vraiment la paix ou pas ? Parce que c'est quand même un cessez-le-feu à demi-mot. On se jette pas dans la notion de cessez-le-feu pour atteindre une paix longue et durable pour l'instant.
Ce qui est évident, c'est que il n'a pas encore été question de l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
On parle pas de ça pour l'instant.
Pour moi, c'est le point clé. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas mis sur le tapis cette question de l'intégrité territoriale ukrainienne et du territoire ukrainien, on n'arrivera pas, on tournera autour du pot, c'est-à-dire qu'on va parler de la centrale nucléaire, on va parler de qui va les gérer, est-ce que c'est une aide américaine, est-ce que c'est les Américains, on va parler d'une force à mobiliser pour le maintien de la paix, mais pour l'instant, la question qui fâche et qui n'a pas encore été abordée, malgré, on va en être à la quatrième réunion en l'espace de quasiment un mois, là, entre les acteurs américains, russes, ukrainiens, via l'intermédiaire des pays du Golfe.
C'est plutôt terminé plus tôt.
Mais c'est une réunion de 2 minutes, c'est une réunion quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, cette question de l'intégrité territoriale, tant qu'elle n'est pas mise sur le tapis, on a l'impression que les joueurs gardent encore leurs cartes en main. Et pour moi, c'est là où ça va être vraiment la discussion clé. C'est qui du premier va accepter soit de rendre à l'Ukraine son territoire, soit de céder à la Russie une partie de son territoire. Et pour l'instant, c'est le non-dit qui fait qu'on est encore dans des négociations qui n'ont pas abouti, même pas, comme vous l'avez dit, un cessez-le-feu. Pour l'instant, c'est un cessez-le-feu sur les attaques et les infrastructures ukrainiennes, énergétiques ukrainiennes.
L'Europe a réagi ?
Pour l'instant, encore une fois, c'est très difficile pour l'Europe de se positionner parce qu'elle est absente de ces tractations. Alors l'Europe a réagi, comme dit, d'une certaine façon, par le fait de continuer à montrer qu'elle maintient des relations et qu'elle est encore à la manœuvre, notamment avec la partie ukrainienne. Et c'est tout l'objet de cette rencontre entre Emmanuel Macron et Zelensky. Mais l'Europe est un peu amorphe.
On le sent qu'elle est blessée, en tout cas.
Elle n'est pas prise en compte. Elle est absente, vraiment. Même si on prend les initiatives, alors on sait que pour les Américains, encore une fois, c'est un billard à plusieurs bandes et que l'idée de mettre en avant les Saoudiens, ça fait partie de l'espèce de valise de solutions post-accord d'Abraham. Enfin, c'est à prendre en considération avec l'image de faiseur de paix que Trump veut se donner.
Mais est-ce que là, désolé de vous interrompre, est-ce que là on n'est pas en train d'extrapoler, vous et moi, en se disant, mais c'est impossible qu'il n'y ait pas un autre plan supérieur. On essaie de trouver un autre plan supérieur à Donald Trump, parce que pour l'instant, c'est pas forcément super clair. Et avec justement le rôle qu'ils essayent d'amener avec l'Arabie Saoudite, etc., est-ce qu'on serait pas là en train d'essayer de lui trouver un plan qui est peut-être pas forcément là?
C'est difficile à dire parce que...
On a du mal à croire qu'il n'y ait pas de plan derrière tout ça.
À la fois, on se dit, mais est-ce qu'il navigue pas un peu à vue? C'est vrai. Ouais. Mais en même temps, encore une fois... Juger Trump par les résultats, et là je prends notamment la question du Proche-Orient et la question russe, c'est à la fois Trump, encore une fois, qui a permis ces signatures des accords d'Abraham, qui pour nos auditeurs d'Europa Voice, d'SBS, sont encore une fois la mise en place de relations diplomatiques, économiques entre Israël, les Émirats Arabes Unis, Dubaï et Abu Dhabi notamment, qui est quelque chose d'historique. C'est au même niveau presque historique que la paix entre Israël et la Jordanie et la paix entre Israël et l'Égypte. C'est des pays qui sont plus en guerre depuis 50 ans. Alors c'est une paix froide, hein, mais c'est une paix tout de même. Donc c'est quand même historique ce que Trump a fait là. Et puis ce qu'on se dit, c'est que la prochaine étape, c'est Israël et l'Arabie Saoudite, ce qui serait un jalon encore plus historique. Et puis sur la question russe-ukrainienne, après 3 ans de guerre, c'est aussi Trump qui a remis autour de la table, ou de tables séparées des fois, russes et ukrainiens, ce que les Européens n'ont pas fait en l'espace de 3 ans. Alors, oui, on peut dire que Trump navigue à vue, qu'il est un petit peu erratique dans ses décisions, dans ses comportements, mais les faits parlent aussi. Et donc, moi, je ne crois pas, je crois qu'effectivement, qu'il y a une part des fois de réaction un petit peu disproportionnée. Mais derrière, il n'y a pas que Trump. C'est-à-dire que derrière Trump, il y a quand même des stratèges, etc.
Il y a une diplomatie
qui font qu'encore une fois, sur le terrain, juste pour mentionner ces deux cas du Proche-Orient et de la Russie et de l'Ukraine, il y a quand même eu des avancées, ou en tout cas des mouvements, depuis les présidences de Donald Trump.
Il va l'avoir son prix Nobel ou pas?
À mon avis, en tout cas, on avait déjà discuté, Christophe.
Je ne sais plus si on a discuté hors micro ou hors micro.
C'était peut-être hors micro, mais effectivement, d'aucuns disent que un des objectifs de Trump, une fois qu'on a été président des États-Unis, de toute façon, il ne reste pas grand-chose. Le peu de respect qu'il a pour l'ONU, je ne pense pas qu'il vise quelque chose au niveau de l'ONU, mais voilà, la prochaine étape est aussi par jalousie vis-à-vis de
Barack Obama qui l'a eu.
Vis-à-vis de Barack Obama, certains disent que voilà, le prochain objectif de Donald Trump, ce qui lui reste encore après avoir été businessman, après avoir été président des États-Unis.
Qu'est-ce qu'il n'a pas été, en fait,
c'est le prix Nobel de la paix, ouais. Et surtout parce que Barack Obama l'a eu. Donc, ouais. Est-ce que toutes ces initiatives, finalement, elles ne se font pas? Mais à la rigueur, ça, ce n'est pas tellement le sujet.
C'est anecdotique, mais c'est marrant d'en parler quand même.
Mais voilà, certains disent qu'effectivement, l'espèce de proactivité, le surcomportement de Donald Trump sur toutes ses initiatives diplomatiques, à défaut de parler finalement de politique intérieure, hein, sur la santé, enfin de choses dont les Américains auraient aussi besoin, cette proactivité diplomatique, elle pourrait être expliquée par cette recherche du prix Nobel, du Graal ultime du prix Nobel de la paix.
Voilà, c'est un bon moment pour faire une pause dans cette Europa Voice première partie. On fait une courte pause, on se retrouve dans la seconde partie pour parler de Serbie.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Europa Voice numéro 160 et deuxième partie avec Nathanaël Bloch. Nathanaël, deuxième partie, on l'a dit en résumé, on va parler de la Serbie. Et il se passe des choses très intéressantes en Serbie pour le pouvoir, pour le peuple et surtout pour la position de la Serbie au sein, peut-être pas forcément du bloc européen, mais aussi sa position mondiale, stratégiquement mondiale.
Alors la Serbie, Christophe, c'est un cas intéressant parce que c'est... ces pays, comme il en existe certains à l'est de l'Europe, qui sont dans l'antichambre en fait de l'adhésion de l'Union européenne depuis près de 15 ans.
On les a laissés là pendant un petit moment quand même. Hein. Ça fait un petit moment que ça dure. Hein.
La Serbie a été candidat à l'adhésion à l'Union européenne depuis 2012-2013. Donc ça fait 12 ans en fait que la Serbie est candidate. Les négociations, donc c'est encore une étape plus loin, on avait dit d'abord il faut faire acte de candidature, ensuite on ouvre les négociations d'adhésion. Les négociations d'adhésion ont débuté il y a un peu plus de 10 ans, en 2014. Et donc la Serbie attend toujours d'intégrer l'Union européenne Et il y a deux choses, moi, qui me frappent et qui aussi expliquent ce qui est en train de se passer, c'est une négociation contre la corruption en Serbie. La première chose, c'est qu'en fait, pour la Serbie, et c'est assez normal, l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Serbie. Donc ça ferait complètement sens que la Serbie soit intégrée au bloc de l'Union européenne. Et puis la deuxième chose, c'est que la Serbie, étant candidate et dans l'antichambre de cette adhésion à l'Union européenne depuis plus de 10 ans, elle voit aussi ce qui est en train de se passer avec la Moldavie, elle voit ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine, où on en avait parlé dans des précédents épisodes d'Europa Voice, il y a des processus de fast track de ces pays-là. Et donc, il y a aussi une espèce de question de candidature à deux vitesses. C'est, est-ce qu'il faut attendre une menace de l'intégrité de son territoire pour accéder plus rapidement à l'Union européenne? Et puis, il y a un côté aussi serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que tant, effectivement, que ces pays ne remplissent pas un certain nombre de critères pour intégrer l'Union européenne, principes de droit, etc., ils ne peuvent pas l'intégrer. Et en même temps, le fait de ne pas intégrer l'Union européenne, on pourrait dire aussi, ne facilite pas le fait que ces pays, justement, respectent ces états de droit, etc., puisqu'ils sont, ils font pas partie de cette coopération économique et politique. Et donc, ce qui se passe, c'est très intéressant, c'est que moi, je me demande, Christophe, si on n'est pas aussi en train un petit peu de perdre un momentum pour l'Union européenne d'intégrer ces pays qui, d'une certaine façon, feraient aussi zone tampon par rapport à la Russie.
Et il y a une histoire aussi, bien sûr, en Serbie, la Croatie est membre de l'Union européenne. Donc, est-ce qu'il y a aussi, entre guillemets, une certaine jalousie de la Serbie qui voudrait atteindre ce niveau, ce statut, après tout ce qui s'est passé dans la région des Balkans sur le siècle, on peut dire, le siècle dernier, et la reconstruction de la région en tant que telle? Est-ce que cette rivalité, elle est là aussi? Est-ce que la Serbie a besoin d'atteindre ce statut de membre comme pays voisin, pays ennemi pendant un bon moment, la Croatie?
Il y a ça, effectivement, on ne peut pas oublier l'histoire.
La Croatie est membre depuis 2013.
Voilà, on peut pas oublier l'histoire des Balkans, de l'ex-Yougoslavie, d'une certaine façon aussi, avant ce qui se passe en Russie et en Ukraine, du dernier conflit territorial en Europe, hein, et aujourd'hui en Union européenne, hein, si on prend l'exemple croate. Donc effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ces manifestations, elles sont même pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est vraiment la population et les jeunes étudiants qui dénoncent aussi, et c'est là où c'est intéressant, qui dénoncent aussi le fait que l'Union européenne est trop conciliante avec le président serbe Aleksandar Vučić depuis qu'il est au pouvoir, et que justement les index démocratiques qui permettraient à la Serbie de rejoindre l'Union européenne sont en baisse depuis 12 ans. Donc c'est le peuple serbe qui accuse leur idéal, qui est l'Union européenne, de faire qu'il y a trop de corruption, si on résume, en Serbie. Et donc, c'est pour ça, il y a un peu ce chat qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'à la fois, les Serbes trouvent que l'Europe est trop conciliante avec leurs dirigeants, et en même temps, ces Serbes qui essayent de manifester contre leurs dirigeants pour que justement il n'y ait pas ce niveau de corruption, mais donc vers qui se tournent? Ils ne peuvent pas se tourner vers l'Union européenne puisqu'elle est trop conciliante. Ils ne vont pas se tourner non plus vers la Russie. Ils ne veulent pas du tout être pris dans cette espèce de politique satellitaire avec la Russie. Et donc, ça pose la question qu'on peut encore aussi aujourd'hui avoir en Europe des pays qui sont totalement, j'allais dire, indépendants, en tout cas qui sont pour l'instant pas dans un des deux blocs. Et donc, ça relance aussi toutes ces questions-là de ces pays limitrophes entre l'Union européenne et la Russie. Est-ce que finalement, on n'a pas intérêt aussi à les avoir comme, j'allais dire, pays, entités à part entière qui vivent leur vie et qui finalement permettent aussi d'avoir une, pas une soupape de sécurité, mais voilà, une buffer zone, comme on dirait en anglais, entre justement la Russie et
une
zone tampon entre la Russie et l'Union européenne.
Et juste pour finir sur ce sujet, est-ce que vous, et ça c'est, j'appelle à votre peut-être imagination, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'au lendemain de la paix entre l'Ukraine et la Russie, puisqu'il y a tous ces adhésions, la Moldavie, l'Ukraine qui pourraient arriver en fast track, est-ce qu'il pourrait y avoir un appel d'air pour d'autres pays comme la Serbie en se disant, ok, à partir de maintenant, on va intégrer aussi tous ces pays qu'on a laissés un petit peu de côté à cause de la guerre, et qu'on va faire une espèce d'entrée un peu pour tous et d'élargir un petit peu la porte à ce moment, en ce moment de la paix, si la paix intègre une paix et une intégration de l'Union européenne, de l'Ukraine en Union européenne.
Bah, il y aura toujours, Christophe, ces questions. Et c'est...
On a du mal à penser que la Moldavie et l'Ukraine pourraient devenir membres avant justement des pays comme la Serbie.
Alors on a du mal effectivement à le penser, au vu là pour le coup de l'histoire du conflit dans les Balkans. Mais il y a toujours, encore une fois, cette question, ce marronnier de l'élargissement versus de l'approfondissement. L'Europe, vous l'avez mentionné, 2013 pour la Croatie. Il y a eu, et c'est une position un peu personnelle, mais que j'aimerais partager avec nos auditeurs, il y a eu trop de pays qui ont été intégrés dans l'Union européenne trop rapidement, à défaut d'approfondir les compétences elles-mêmes de l'Union européenne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une Union européenne élargie à 28-1, à 27, sans avoir des politiques communes cohérentes qui peuvent fragiliser l'Union européenne. Et la question de la défense de l'armée européenne ne peut pas avoir plus d'acuité que maintenant. Et cette question-là, elle n'est pas insoluble.
Si on ne sort pas avec une armée dans un conflit comme ça, il n'y aura jamais une armée européenne, soyons clairs. C'est un avis, mais...
C'est des choses qui peuvent se faire. Mais c'est des choses qui aussi se font plus difficilement quand on est 40 que quand on est 10, quand on est 16, etc. Et encore une fois, pour nos éditeurs d'Europa Voice et l'SBS, l'intégration économique de l'Europe, elle est réussie. L'Union européenne est une belle zone de libre-échange des biens, des matériaux et de circulation des personnes. L'Union européenne, de ce point de vue-là, en tant que zone économique, est réussie. Ce qui manque maintenant, c'est l'intégration, c'est l'union politique, c'est l'union de la défense, c'est l'union diplomatique. Et donc l'Union européenne, elle est confrontée à ce problème-là. Le fast-track qui est discuté pour la Moldavie et l'Ukraine, encore une fois, c'est un fast-track face à des situations d'urgence. Mais ce n'est pas la procédure habituelle. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que l'Union européenne doit complètement fermer la porte et dire non, il n'y a plus du tout d'adhésion, là, c'est rien qu'on ouvre une adhésion pour que vous soyez pendant 10 ans dans l'antichambre et qu'il ne se passe rien? Ou est-ce que l'Union européenne prend ce risque-là, mais aussi accepte, et le programme Rearm Europe nous donne peut-être une réponse, que l'Europe est finalement, parce qu'elle est dos au mur avec ce conflit en Ukraine, parce qu'elle est dos au mur aussi avec le désengagement américain de l'OTAN qui permettait d'avoir ce parapluie militaire en Pologne et aux portes de l'Europe, parce qu'elle est dos au mur, l'Union européenne, à mon avis, va aller beaucoup plus rapidement dans son intégration politique, diplomatique, sécuritaire et de défense. Et donc, si elle va plus vite, ça permettra aussi, peut-être, de faire rentrer ces pays-là, parce que on aura quelque chose de cohérent où on peut tous se réunir autour de la table et justement protéger, là, en l'occurrence, protéger l'Europe à ses frontières. Mais il va falloir danser sur ses deux pieds, à la fois élargir, mais aussi approfondir ce qui existe déjà pour que il n'y ait pas ou plus ou moins de menaces existentielles aux portes de l'Europe.
Affaire à suivre. Nathanaël, merci.
Merci beaucoup.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.